Les invités d'André Casabianca sur RCI.
Sa peinture, on ne saurait la classer. À vrai dire, dans aucune école ni mouvement particulier, mais on peut en ressentir immédiatement les points forts, les tendances, les ancrages. Des maisons, des rues, des campaniles de chez nous, tracées de leur ligne parfaite dans un noir et blanc majestueux, rehaussées par endroits d'un gris d'ardoise, mariées à l'harmonie des murs anciens. Eh bien, ce texte, il est de Jacques Fousine, mais notre invité, c'est Pierre Barra. Pierre Barra, vous l'avez compris tout de suite, est peintre. Alors, ce choix dans votre vie si profond, comment cela est-il arrivé ?
Le fait d'être peintre.
Oui.
Depuis très jeune, j'ai toujours eu envie de m'exprimer par le dessin, depuis par la peinture. Après mes études secondaires, j'ai passé le concours des arts décoratifs et l'examen des beaux-arts. Bon, j'ai fait quelques temps aux arts décoratifs, je ne me suis pas vraiment plu, et aux beaux-arts non plus. Donc j'ai loué une petite chambre à Paris, dans le 9e, rue de Maubeuge, au dernier étage, où j'ai commencé à peindre seul des sujets allant du portrait au paysage. Et puis, très vite, j'ai eu la chance de participer à un concours qui est organisé par le Musée d'art moderne de Paris, qui était... Et j'ai eu le premier prix, j'avais 19 ans. Donc ensuite, c'était plus facile pour moi de trouver des marchands. Voilà. Donc ça, c'est mon tout début. De 15 ans où j'ai commencé à peindre jusqu'à 19 ans, effectivement, j'ai pu avoir une petite renommée qui m'a facilité les entrées dans les galeries.
Devant déjà tout ce que vous nous avez dit, on est saisi, c'est formidable quelque part. Et moi, j'aimerais vous demander comment vous définiriez l'originalité ? Comment on devient original en peinture ?
Bien, je crois qu'on devient original, surtout quand on ne veut pas devenir original. Je crois qu'il faut peindre, il faut peindre selon sa propre vue personnelle, si on en a une. Tout le monde a une vue personnelle. Elle est valable ou pas ? Moi, la mienne, je ne sais pas si elle est valable, mais... J'étais impressionné, les peintres qui m'ont impressionné, c'est Rouault, pour qui j'avais vraiment beaucoup d'affection, je l'ai un peu connu. Et puis, effectivement, les peintres comme Braque, Matisse, que vous connaissez bien.
Donc, oui.
Non,
oui, j'aime
pas forcément
aussi.
Matisse, mais je sais que vous aimez beaucoup
oui.
Matisse.
Oui.
Vous avez fait d'ailleurs un topo sur Matisse, un jour à la galerie Noir et Blanc.
C'est pas faux.
Pas tout,
on ne peut rien vous cacher, Pierre.
Et pourtant, ma mémoire fait défaut, comme je vous l'ai dit parfois.
On ne va donc pas s'amuser avec votre mémoire.
Non.
On ne va pas vous chatouiller les souvenirs.
Non,
bon,
non,
mais
non.
Dans cette liste, il y a déjà des grands peintres.
Oui.
Donc c'est peut-être ça aussi l'originalité. C'est soit de les suivre, soit de les dépasser. Enfin, voilà. Bon,
Mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup en allant dans les musées. On apprend beaucoup en allant voir effectivement ces peintres qui sont des peintres, qui sont des maîtres. Et à leur contact, soit on les rencontre, ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré Bacon.
C'est pas rien.
Non, c'est vrai, c'est pas rien. Mais c'est des rencontres relativement simples. On est émerveillé de le rencontrer, on s'aperçoit qu'on a en face de soi un homme très simple. Je parle pour Bacon et d'autres peintres. Je n'ai pas rencontré Braque. Bon, je parle de ces peintres-là parce que ce qui vient à l'esprit, la sculpture, Germaine Richier. Je crois qu'on en avait déjà parlé.
Alors, Germaine Richier, moi aussi, j'ai eu un coup de foudre
au Musée d'Art moderne. C'est ça.
Parce qu'on fréquentait à ce moment-là, dans les années 80, 70 même, beaucoup le Musée d'Art moderne.
Oui.
Maintenant, il a un peu périclité.
Oui.
Mais c'est le centre Pompidou, je veux dire, règne en maître. Mais disons que le Musée d'art moderne avait son mot à dire dans la peinture.
Oui, parce que d'un côté, il y avait le Musée d'art moderne, et de l'autre côté, il y avait le Palais des expositions, qui s'appelait aussi le Musée d'art moderne, d'ailleurs, où il y avait des grandes expositions. Maintenant, tout ça, c'est... Moi, je parle des années 50, 55, 70. Vous êtes mon cadet.
Et c'est vrai, j'ai eu l'honneur de vous connaître, hein, attention, dans les politesses les plus infinies. Allons un peu de musique.
Sposalo sto silenzio, scialba si murio di affio. Di digeli e donde di vorreste chiu en tu betina, chiu en tu betina di muschi matia giuli e uspunta di l'alebe quando l'usi sbugi.
Cette belle chanson de Patricia, je sais, Pierre, que vous avez beaucoup d'admiration pour Patricia, mais également, elle vous a écrit un petit poème.
Oui.
Alors
elle m'a écrit même un grand poème, un très joli poème, en corse, donc je l'ai fait traduire. Et je trouve que Patricia a beaucoup d'élégance, beaucoup d'élévation.
Et tendresse aussi.
Beaucoup de tendresse, beaucoup d'humilité et beaucoup de talent. Donc c'est vrai que c'est une personne que j'aime beaucoup.
Alors il y a un exercice que vous êtes vraiment au top, je trouve. C'est sur ces photos d'artistes. On peut voir les couvertures de Musa Nostra. Moi, j'ai toujours en tête Claude Simon, Samuel Beckett, Zouzou aussi.
Zouzou,
voilà.
Oui.
Voilà, j'aime beaucoup aussi parce que Madame Anna Magnani. Mais parlez-nous un petit peu de votre technique, là. Comment vous réussissez
J'ai fait le portrait de Duras. Pour Duras, que j'ai connu, avec qui j'ai travaillé pendant pratiquement 3 ans, sur des films, on en parlera si c'est nécessaire.
On y viendra tout à l'heure.
Duras, j'ai toujours fait d'après photo.
Allez.
Oui, j'ai fait des esquisses, mais j'ai toujours travaillé d'après photo. Des photos qui ont été tirées d'un livre qu'un photographe qui va m'en vouloir, parce qu'effectivement, je viens de perdre son nom, comme je le dis, et qui a fait un très beau livre avec des portraits de romanciers connus.
Oui, mais j'engage les auditeurs qui nous écoutent à un peu avoir la curiosité d'aller voir justement ce que vous réalisez, parce qu'il y a quand même une touche personnelle dans ces photos.
Oui, je recherche surtout dans la photo, je recherche la lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre et le regard. Bon, pour ce qui est des traits, c'est relativement... C'est ça, ce qu'il faut, c'est dépasser la copie pour essayer d'être proche de la personnalité, de la personne qu'on a en face de soi. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, moi, je les connaissais, donc Duras, je le connaissais bien, donc Claude Simon, peu.
Mais oui, mais vous aimez beaucoup ce qui...
Les photos avaient été absolument magnifiques. Certaines, je les ai faites, d'autres ont été prises par ce photographe. Et bon, j'ai fait aussi le... Comment ça s'appelle on peut couper ou pas?
Non.
On ne peut pas couper. Comment on ne peut pas couper? Bon, on ne va pas couper. Ma mémoire faisant à nouveau défaut. Je vais parler de cette...
Oui.
Moi, je préfère dire écrivain qu'écrivaine, mais bon, je vais peut-être...
Oui, moi aussi. Le terme le plus atroce, c'est autrice. Un auteur, une autrice, c'est
oui.
Top niveau.
Oui.
Oui. Bon.
Une auteure, à la limite,
oui, je préfère
je
aussi.
Peux le dire, je peux le prononcer.
Oui.
Elle est. Alors, on va la retrouver. Elle est enterrée au cimetière de Vico.
Et c'est Marie Souzine.
Marie Souzine.
Bien sûr.
Merveilleuse écrivaine.
Oui.
Merveilleuse écrivaine.
Je suis allé sur sa tombe.
Qui parle de la Corse.
Oui.
Avec une beauté, une beauté de littéraire superbe. Elle peut m'inspirer, Marie Souzine, par ses forts accents, la lumière très forte, l'ombre très noire. Il fait trop chaud, il y a trop de vent.
C'est un peu comme à Reno, son village natal.
Absolument, c'est ça. Oui.
Il y a souvent du vent et il n'y a jamais de pluie, c'est tellement beau.
Il y a aussi un auteur...
Oui, un auteur.
Je peux parler, c'est Marie Ferranti.
Oui, bien sûr.
C'est aussi qu'elle parle très très bien de la Corse.
Oui.
Pas que de la Corse, bon, mais elle parle très bien de la Corse.
C'est vrai qu'il pourrait y avoir une parenté.
Une parenté, oui.
On est tout à fait d'accord.
Oui.
Les
écrivains n'aiment pas trop qu'on leur trouve de parenté. Les peintres non plus, d'ailleurs. Il ne faut pas me trouver de parenté. Je suis orphelin.
Moi, je sais que vous êtes le seul. Je sais que vous êtes le seul. Musique.
Ouais. Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentre raille, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. Mon Pierre, sur la campagne endormie, le silence et puis un cri, c'est rien. Un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusqu'à moi sans bruit. Descend l'allée, c'est lui.
Barbara, c'est plus qu'une chanson, c'est un chant, c'est oui. une mélodie.
C'est magnifique.
On se promène ouais, avec ouais. elle, c'est un régal ouais, total. Ouais,
c'est et l'orchestration est très très belle.
Oui, elle est douce, elle convient ouais. parfaitement à sa voix. Et maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de Marguerite Duras.
Ah.
Parce que vous êtes peintre, ça,
oui.
on en est sûr, mais vous avez été producteur de films, de cinéma.
Oui, oui.
Alors, vous avez donc vu approcher Marguerite Duras. Pour quel film ?
Je l'ai approché avec le film India Song. Et on a fait, sur le film India Song, d'après la bande sonore d'India Song, on a fait Salon de Venise dans Calcutta désert. C'est-à-dire ce que crie le vice-consul quand il appelle Anna Maria Guardi. Donc sur cette bande son, on a Marguerite a filmé dans l'hôtel Rothschild, qui se trouve à Boulogne. À l'époque, cet hôtel Rothschild avait été réalisé pendant la guerre par Göring. Donc les Rothschild n'ont jamais voulu habiter l'endroit. Alors quand on a tourné dans cet endroit, c'était vide, évidemment. Il n'y avait que des vestiges de tapisserie. C'était assez troublant. Donc on a fait tout le film là, dans ce château, sur la bande-son d'India Song.
Alors, comment était-elle dans le privé, comme l'on dit
Dans le privé, elle était très, très affective, très absolument charmante, presque une maman. Elle aimait faire la cuisine, elle nous faisait la cuisine, on riait, on jouait au ping-pong, on faisait des choses extrêmement simples. Mais dès qu'elle devenait intellectuelle, soit sur le plan littéraire, sur le plan musical un petit peu moins, mais sur le plan politique, elle était radicale. C'était difficile de lui tenir tête. Elle était vraiment, c'est ça, d'une radicalité absolue. Avec toujours un peu de poésie, parce que Palissy avait beaucoup de poésie, beaucoup, et aussi beaucoup d'hésitation, elle cherchait ses mots, mais dans la vie privée, comme ça, à Nauf ou rue, bon, la oui. fameuse rue que tout le monde connaît, dont je viens
de
dire
le nom. C'est la rue de la mémoire, je crois. C'est la rue de la mémoire, non mais
c'est la rue de la mémoire, oui.
oui, non mais bon.
Rue Saint-Benoît.
Bon. Voilà, d'accord.
C'était vraiment d'une très grande simplicité.
Oui. Le cinéma, c'est important pour vous quand même.
Ça a été important parce que j'ai cessé de peindre pour des raisons très personnelles. Ne me posez pas la question, je ne veux pas vous répondre.
J'avais l'intention de vous... Mais je ne la poserai pas.
Non, ne la posez pas. Donc, j'ai oui. commencé à faire des storyboards pour les films publicitaires. J'ai monté une société de films publicitaires, rapidement.
Oui.
Ensuite, des moyens-métrages. Et puis, j'ai eu la chance, avec mon frère qui était avec moi, on a rencontré Duras et on a fait deux films de Marguerite. celui-là, son nom de ville dans Calcutta désert, et le camion avec Depardieu, qui était à Cannes.
Oui. Vous êtes allé en camion avec Depardieu, non? Enfin, je veux dire, vous mais avez amené le film...
Mais monsieur, vous savez à qui vous parlez?
C'est un film...
On est allé en avion, nous sommes allés en avion.
Mais
avec l'époque, c'était Air Inter.
Oui. C'est pas forcément un film qui a marqué le cinéma.
C'est pas un film de... C'est pas un western.
Hein? Oui, il n'y a pas John Wayne.
Il y a pas
oui.
de.
Il y a Gérard Depardieu.
Il y a Gérard Depardieu assis dans un fauteuil.
Oui.
Le camion.
Oui.
Un magnifique camion prêté par Renault. Et puis bon, effectivement, c'est Marguerite qui se raconte. En réalité, c'est elle le sujet.
Hein, c'est un film qui s'écoute plus qu'il se regarde, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est aussi une espèce de radicalité.
Oui.
Je dirais que le cinéaste qu'elle adorait en même temps qu'elle vouait aux hégémonies, c'est Godard. Mais elle adorait Godard.
Oui, oui.
Elle voulait faire du Godard, elle n'a jamais fait de Godard. Mais quand on a monté certains films, on les montait sur la table de montage de Godard.
Et moi, j'apprécie beaucoup, parce que moi aussi, je suis un admirateur.
Ah oui. Il a apporté énormément au cinéma.
Énormément. En tant que théoricien,
oui.
En tant que cinéaste, tant que même journaliste, rédacteur, critique,
à tous les
niveaux, cet homme a amené quelque chose.
Oui, parce qu'il était particulier, Godard.
Oui.
Il y avait vraiment un Godard. Il n'y a pas un film qui ressemblait à un film de Godard.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.
Eh bien, après cette chanson, on peut aller directement à Paris. Moi, j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ?
Volontiers.
Alors, quelques petits souvenirs de Paris. Parce que quand même, tout à l'heure, vous m'avez dit, j'ai vécu 76 ans dans Paris. Alors...
Est-ce que c'est bien utile de parler de mon âge ? Vraiment.
L'âge, il vous va très bien, cet âge-là.
Oui, je suis un Parisien.
Oui.
D'ailleurs, je pensais que ne pas pouvoir quitter Paris.
Voilà, oui. Oui. Mais là, vous allez vite en besogne. Comment, dans quel quartier? Vous avez connu plusieurs quartiers.
Alors, oui, comment, le quartier de mon enfance, c'est Montmartre.
Oui.
Montmartre, j'habitais près de la Place Blanche.
Les peintres, déjà.
Rue Fontaine. Oui, oui. Oui, c'est vrai que mes premiers tableaux, c'était Montmartre. Rue de l'Abreuvoir, rue du Mont-Cenis. Et c'est aussi mon jardin. Enfant, ma mère nous emmenait au Sacré-Cœur, ça s'appelait le Sacré-Cœur, ça s'appelle toujours comme ça.
Ça s'appelle toujours, oui.
Et c'est vrai que Montmartre était vraiment un endroit merveilleux, c'était un village. Je parle des années 45, 46, puisque vous citez mon âge. Je peux y aller.
Oui, oui, mes jeunes années.
C'était un endroit de. Il y avait. La place du Terre, ça existait déjà, mais c'était un endroit quand même de paix, de calme. C'était presque la campagne, Montmartre. Pas pour moi, dans les années 50, même 45. Et puis, de la rue Fontaine, j'habitais au 32, et je crois que. Le nom vient de l'échapper, donc je ne vais pas vous en parler.
Hein.
comment s'appelle-t-il Bon, c'était pas la peine.
Mais hein. comment vous analysez, vous comprenez le succès qu'a eu Montmartre, c'est-à-dire cette population, ce tourisme qui a tué quand même, bon, qui a permis à Montmartre de survivre.
Parce que je pense que Montmartre, quelque part, restait authentique, très longtemps. Il y avait, moi j'ai connu
un village, quoi.
Il y avait le petit Poulbeau, il y avait la commune de Montmartre, les vignes de Montmartre, où il y avait, il y avait les vendanges. Et puis c'est vrai que c'était vraiment un village. Il fallait. Montmartre, c'est pas un endroit où on passe, Montmartre. C'est pas un endroit qu'on traverse, il faut y aller. Donc, peut-être pour ça que cette authenticité est restée. Bon, après, dans les années 70, le tourisme. Puis, effectivement, il y a eu certains cabarets.
Patachou,
avec ses cravates coupées. Mmh. Brassens, qui a commencé chez Patachou. Mmh. Et puis, il y a eu le bateau Lavoir. Et ça, le bateau Lavoir.
Retour à la peinture.
Voilà. Et j'ai eu la chance de connaître l'atelier de Picasso au bateau Lavoir.
Alors c'était comment ?
C'était assez grand. Assez grand. C'était une grande verrière tournée, non pas tournée vers le nord, mais tournée vers l'ouest. Et quand j'ai vu l'atelier de Picasso, c'était un ami qui était sculpteur, qui est décédé maintenant, et qui s'appelait Georges Guyot. C'était un élève de Pompon. Et
Pompon.
On s'aimait bien, il était beaucoup plus âgé que moi. Et voilà, on a échangé des lettres, on a déjeuné ensemble, et puis on a même échangé une peinture contre une sculpture. Bon, je parle de Guyot, bon, effectivement de Montmartre, parce que c'est le lieu de mon enfance, c'est le lieu aussi de quand j'étais adolescent, et puis mes parents sont restés à Montmartre très très longtemps, donc c'était pour moi toujours un endroit béni.
Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois quand vous êtes allé au cinéma, dans un cinéma à Montmartre ?
Oui, je suis allé dans un cinéma qui s'appelait le Weppler.
Oui.
Un cinéma qui est près de la place Clichy. Et je crois que j'avais dû voir un film, je pense que c'est un dessin animé, peut-être Blanche-Neige. Pas très rassurant pour les enfants.
Hein,
la sorcière. On se souvient plus de la sorcière que de...
Mais ça, on se souvient toujours du méchant dans un film.
Oui, oui.
Plutôt que du playboy.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Bohème, la Bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Bohème, la Bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
La vie d'artiste, c'est une vie qui vous a plu et qui vous plaît encore, hein, cette vie d'artiste, même en Corse, même ici.
Oui, hein. parce qu'on est complètement indépendant. On est libre et indépendant, libre, si on peut être libre, avec nos cartes bleues.
Bon. Cette vie d'artiste, vous le disiez tout à l'heure, dès l'âge de 15 ans, vous guettiez un peu les peintres, Vous les regardiez, vous étiez attiré par eux.
Je n'ai pas été attiré par la bonne peinture au début, hein, sauf que dans les livres. J'aimais beaucoup Gauguin. Alors Gauguin, c'était les arbres de Gauguin. Je copiais les arbres de Gauguin. C'est aussi bien pendant, là-bas.
Donc, oui, dans les îles Marquises. Oui, d'accord. Il est là.
C'était pas la Seine.
Oui.
Et c'est vrai que les arbres de Gauguin m'ont toujours fasciné, quand j'avais 12-13 ans, donc je recopiais. Et puis ensuite, c'est vrai qu'à Montmartre, il y avait quand même des peintres à Montmartre, mais je n'avais pas l'œil fait pour discerner ce qu'était la qualité ou pas la qualité. Il y en avait qui s'appelait Dragomir, qui était dans la galerie qui est devenue la galerie Hervé, ensuite avenue Matignon, qui est devenue une très grande galerie. Et j'avais été fasciné par ce peintre qui s'appelait Dragomir. Bon, ça a duré quelques temps. Ensuite, je n'ai pas appris à peindre à Montmartre. J'ai peint à Montmartre. Parce que c'était mon village, donc j'ai peint les rues de Montmartre quand j'ai débuté. Et la Seine, près des Beaux-Arts.
Alors, une autre petite question, mais c'est sur le terme. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez du terme plasticien ?
Ben, il est mis à toutes les sauces. Dès l'instant, on a un bout de crayon, on est plasticien. Un morceau de fer, on est plasticien. Une éponge collée, on est plasticien. Ça ne me dit rien.
Alors, vous préférez artiste peintre ?
Oui, le mot artiste est un mot difficile, hein, parce que c'est un, c'est une complétude d'artiste. Donc, oui, peintre, oui.
Oui, tout peintre, simplement et oui, magnifiquement.
Oui. Mais plasticien, je n'aime pas trop. C'est la mode, hein, d'être plasticien.
Oui, quelque part, oui. Mais les mots suivent les modes, c'est oui. quelque chose...
Oui, c'est peut-être une évolution.
Une évolution.
Du vocabulaire.
Oui, oui. Et une autre façon peut-être d'exprimer les choses. Bon, voilà. Donc, Pierre, si vous êtes avec nous et nous donnez ce plaisir d'être avec nous, c'est parce que vous exposez à la Galerie Noir et Blanc du 27 mai au 9 juin. Et cette exposition, comment vous l'avez conçue? Comment vous l'avez organisée?
Ça fait partie d'un ensemble d'exposants. Moi, j'ai la chance de faire une exposition personnelle au rez-de-chaussée, mais il y a de très bons peintres, vraiment, qui sont exposés également.
On en parlera après.
Ah, d'accord. Donc, ce que j'expose, ce sont des peintures en noir et blanc. Vous savez que la Corse, je l'ai toujours vue en noir et blanc, parce que c'est vrai que c'est magnifique au regard. Mais c'était tout de même une terre très aride à cultiver. C'est un milieu où la mort est présente, comme en Corse. La mort est présente, qu'elle soit violente ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai toujours exprimé la Corse en noir et blanc, c'est-à-dire vie-mort, blanc-noir. C'est une certaine radicalité, avec un peu de gris qui serve de passage.
Je pense que c'est une très bonne vision. C'est presque une analyse de la Corse. Avec des couleurs noir et blanc, parce que noir et blanc, ce sont des couleurs.
Les noirs, oui, les couleurs du drapeau corse.
Oui.
Noir et blanc, effectivement. Mais ça m'est venu après. Ça, je savais que le drapeau était noir et blanc. On ne dit pas drapeau, d'ailleurs, en Corse. On dit le...
Bandera.
La bandera, c'est ça.
Ouais, ouais. Oui, oui, oui.
Parce que je vois qu'on sourit autour de moi.
Non,
si.
On ne sourit pas.
Hein. On se moque du pinsuit.
Non, mais vous avez très bien... Mais justement, oui. Là, vous me donnez une question. Qu'est-ce qui vous a pris de venir en Corse?
Des amis. Des amis qui... je suis venu chez eux passer des vacances en Corse. J'ai trouvé que le paysage était magnifique. Je ne connaissais pas, hein. J'étais venu une fois, mais en bateau. Donc, bateau, c'était très différent. Et j'ai trouvé le paysage magnifique. J'aimais beaucoup les familles corses. J'aime le côté de la famille corse. Le côté du respect de l'aïeul. Ça me convient tout à fait.
Ça vous parle?
Oui, ça me parle vraiment. Pas vraiment. J'ai décidé avec Sylvie, mon épouse, de venir en Corse. On est très heureux. Elle aussi, on est très heureux tous les deux en Corse. On est très bien. J'ai un grand atelier, un garage transformé en atelier, un appartement avec une magnifique vue sur la mer, sur les îles Toscane.
Je trouve que j'ai eu le bonheur de venir chez vous. C'est magnifique. Magnifique, et puis cette mer que l'on voit, mais on ne dira pas d'où on voit la mer, hein. Quelque part en Corse, vous souhaitez garder tranquillité.
En Corse, ça m'a permis de faire des peintures que je ne pensais jamais faire, je pensais que c'était déjà fait, c'était tellement beau à voir, je me suis attelé au lever de soleil, puisque nous sommes plein est, et les levers de soleil sont absolument merveilleux, magiques. Par leur côté sombre, ou parfois par leur côté de lumière intense, dans les rouges, les jaunes, les violets. Alors, parallèlement aux peintures noires et blanches, j'expose des levers de soleil.
Voilà. Je trouve qu'il y a un très joli mot. Je pense que c'est Françanne, la galeriste, qui parle de vos levers de soleil, des levers de Bastia délicats, explosifs, somptueux, des levers de soleil magnifiques, dit-elle.
Eh bien, je ne vais rien rajouter.
On ne peut rien rajouter.
Je ne peux rien rajouter.
Vous allez donc les montrer, vous en avez...
Voilà. Alors, il y a une grande salle sera pour les noirs et blancs, et la salle plus petite sera pour les levers de soleil.
Alors, je rappelle les dates. C'est du 27 mai au 9 juin. C'est à la Galerie Noir et Blanc, sur la place du Marché, à Bastia, bien sûr.
m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Les Mistral gagnants, les Mistral gagnants.
Pierre, c'est vous qui avez choisi cette chanson et ça vous évoque quelque chose ou...
Oui, j'aime bien, c'est pas tout à m'évoque, j'aime bien ce chanteur, j'aime bien sa gouaille, j'aime bien son impertinence. J'aime bien la façon dont il triture un petit peu les mots, à la fois un peu argot, et j'aime bien, vraiment.
Oui, il y a une grande poésie aussi.
Ah oui, c'est de la poésie.
De l'immédiat.
C'est de la poésie, oui. C'est de la poésie. J'en préfère cette poésie-là peut-être au rap, je suis un petit peu hermétique au rap. Un peu, bon.
Alors par exemple, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Quelles sont vos lectures?
Ah, c'est une question que vous me posez.
Oui, hein, merci de me l'avoir posée. Mais...
merci de...
mais non, peut-être que vous ne lisez pas. Dire,
là, comme j'ai préparé mon exposition depuis un certain temps, je lis peu.
Oui.
Mais je suis toujours dans les poèmes, vous savez combien j'aime René Char. Et puis, je relis souvent François Tcheng. J'aime beaucoup François Tcheng. Là, donc mes lectures, ce sont des poèmes pour l'instant. Char, Jouffroy, Cheng.
Et alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous pouviez réciter comme ça une phrase ou deux de René Char.
Ça c'est le piège.
Non.
C'est la torture. Non. Ben, je vais essayer.
Oui,
essayez. Une petite.
Juste une
alors,
phrase ou deux.
Je récite extrêmement mal, grave. Hein. Alors, dans le parc des Névons, entouré de prairies, un ruisseau sans talus, un enfant sans amis, nuance leur tristesse et vivent mieux ainsi. Dans le parc des Névons, un rebelle s'est joint au ruisseau, à l'enfant, à leur mirage enfin. Dans le parc des Névons, mortel serait l'été, sans la voix d'un grillon qui parfois se tait.
J'ai bien fait d'insister. Musique.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Alors Pierre, vous n'êtes pas tout seul dans cette expo. Bon, vous avez quand même les très belles pièces, vous êtes au-dessus, vous êtes à l'étage, et vous êtes en bonne compagnie, on peut le dire, hein, Edith Guidogne, et puis d'autres personnes.
Alors je connais bien ce que fait... Enfin, je connais bien, je connais et Guidogne, je vois très bien ce qu'elle fait. C'est vraiment très bien, très intéressant. C'est toujours de très grandes toiles. Et là, je crois qu'elle fait... Elle fait
des les toiles fruits de la Bible.
Qui sont en rapport avec
l'histoire en mai. Oui, voilà. oui, tout
parce
à fait.
Ce sont des fruits. Les autres peintres, je vais les découvrir. Je ne connais pas leur travail.
Donc, vous allez vous promener dans la galerie, vous allez aller au sous-sol, vous allez voir d'autres...
Oui, et un sous-sol, très beau sous-sol.
Oui, un sous-sol, ce serait...
C'est voilà. Pas la meilleure place dans la galerie, le sous-sol est très beau, c'est
un très bien fait, très bien organisé.
Ça sera, je pense, une très belle exposition d'ensemble, d'autant plus que c'est la galerie, là, c'est la première, en réalité, de la galerie, l'inauguration de la galerie.
Voilà, oui.
Donc,
on ne pouvait pas trouver mieux comme affiche.
On ne peut pas trouver mieux.
Le vernissage de votre exposition, l'anniversaire, le premier anniversaire de la galerie Noir et Blanc. Ouais. Eh bien, dites donc, vous
et
avez...
la pendaison de la crémaillère.
Eh bien, mais on y sera tous, hein. C'est
j'espère.
Un terme maudit, ça, la pendaison, mais...
Oui, mais là, ça va.
Là, ça va.
Ça va.
Moi aussi, ça me va. Ça me va très, très, très bien.
balsama di purezza gioielli malavigne onde giri cade su mille un truere della mare
se termine sur ce chant extraordinaire, on peut le dire, tellement vrai, qui nous ressemble tant. Alors, c'est bien entendu Pedro Guelfucci et puis Christophe McDaniel. Alors, un petit mot sur ce chant.
Ce chant, pour moi, c'est comme un hymne à l'amour de la Corse. La prononciation des mots est une prononciation très très douce. L'attaque des mots est tout en douceur. Et puis, on a l'impression que on part de la Corse, mais quand on revient en Corse, on a les larmes aux yeux. Et cette chanson m'évoque vraiment l'amour de la Corse. On ne peut pas la quitter quand on y vit.
Merci Pierre, à bientôt, à très vite.
Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Des birds, des doors, des animals?